des neurones communiquent avec des impulsions électriques. Et dans ce cas, on écoute 4 neurones qui ont été enregistrés dans le cortex moteur du singe. En l'occurrence, un macaque. Donc, quand on fait de la recherche de neurosciences cognitives, on s'intéresse à comment les neurones communiquent entre eux. Et donc, on va enregistrer ces impulsions électriques pendant que le singe il est en train de faire des tâches cognitives comme mémoriser un stimulus ou préparer un mouvement ou estimer un temps et anticiper des événements. On essaye de comprendre comment sont codés les processus cognitifs dans le système neuronal. Il y a plusieurs écoles, il y en a qui disent que c'est juste la fréquence des impulsions qui compte, mais comme on voit, c'est des processus super aléatoires et il y a une autre vision qui pense que c'est plus une synchronisation entre les neurones qui porterait ces processus. Les réseaux neuronaux, c'est des systèmes super complexes où un neurone il reçoit 10 000 connexions d'autres neurones. Et donc ça fait des systèmes archi complexes qui ont un comportement chaotique. C'est des systèmes par exemple comme l'atmosphère où c'est plein de particules dans un gaz et qui interagissent.
Qu'est-ce qu'on fait en neurosciences cognitives? On essaie de se poser la question comment fonctionne en fait le cerveau, notamment le cerveau humain, et comment il processe et élabore l'information qui rentre par les sens pour à la fin faire une action, notamment se retrouver dans un contexte plus ou moins, plus que moins compliqué d'interactions sociaux avec l'environnement, etc. Il sera nécessaire de regarder d'autres cerveaux, d'autres modèles qui sont similaires, mais en même temps pas identiques.
Maintenant, ça fait un siècle qu'on utilise le macaque comme modèle animal. Vu qu'on a beaucoup de données sur ça, c'est difficile de changer de modèle ou de passer à une autre espèce.
Parfois, il se trouve est avantageux de comparer le fonctionnement et l'organisation fonctionnelle du cerveau du primate et le cerveau de l'homme. Alors, je suis tombé sur un article qui était publié dans une des revues les plus prestigieuses, le PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences, par une équipe de chercheurs de Harvard. Et ils étaient intéressés par la question comment le cerveau analyse les visages. Il se trouve que chez l'homme, on a individué, à travers la technique d'imagerie pour résonance magnétique fonctionnelle, en ce moment, trois aires corticales, trois régions dans le cerveau qui s'occupent d'analyser les visages. Et ils ont fait la même étude, une IRMF, chez les macaques. Ils ont trouvé que chez les macaques, il y a six aires qui font des tâches similaires, c'est-à-dire qui s'occupent des visages du singe. Et la question, évidemment, se pose pourquoi chez les deux espèces il y a cette différence et pourquoi il y a cette similitude. Est-ce que c'est dû à une différence d'évolution génétique, vu que quand même on est cousin avec une delay de grosso modo, avec une branching point de grosso modo 20 millions d'années, ou si c'est dû à une spécialisation différente de gérer notre environnement.
Le génome du macaque est très, très proche de celui de l'homme. Pour les processus qu'on étudie, on fait l'hypothèse que les bases neuronales doivent être les mêmes. C'est des processus qui ne sont pas très compliqués. On dit que c'est des processus de bas niveau.
Il y a de plus en plus d'évidence qui supporte ça, qu'il y a une similitude très 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 forte dans l'organisation fonctionnelle entre l'homme et le macaque, sans être égal par ailleurs, mais représentant le même principe. C'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier. Parce que ça sont les seuls animaux qui sont suffisamment complexes du point de vue comportemental et du point de vue cognitif pour être représentatifs de tâches humaines. Donc, ce sont les seuls animaux à qui on peut demander de faire des tâches et que implique à la fin de la production de cette tâche une réponse. Clairement, le singe ne peut pas nous parler, ne peut pas nous dire oui ou non, mais il peut par exemple appuyer sur des boutons en fonction des choses qu'il voit, des choses qu'il entend.
Par exemple, on peut lui apprendre à dessiner, on peut lui apprendre à s'en servir d'un ordinateur, bien d'utiliser même un langage.
Une des approches qui est devenue commune récemment avec le développement de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, c'est de prendre un sujet, par exemple un être humain, de lui faire faire une tâche, par exemple appuyer sur un bouton droit ou sur un bouton gauche sur un clavier, selon ce qu'il voit sur un écran, et d'enregistrer son activité cérébrale en même temps. On peut travailler sur deux binaires différentes. Une, c'est de simplifier le plus possible les tâches, de séparer. Et l'autre, c'est par contre de faire ce qu'on appelle des perturbations. C'est-à-dire, on perturbe de façon possible temporaire une partie des aires qui sont activées. Une méthode qui devient plus et plus d'actualité, et c'est la TMS, c'est une petite machine qui envoie des ondes électromagnétiques très fortes dans une région très focalisée du cerveau, et pour un moment très bref arrive à inactiver cette partie. Donc, si comme résultat de cette pulse TMS, la tâche n'est plus performée correctement par le sujet, on peut en déduire que l'activité dans cette partie du cerveau était vitale pour performer la tâche. Donc ce n'était pas un épiphénomène. Si par contre, ce n'est pas le cas, cette activité était due à d'autres choses mais n'était pas vitale pour la tâche, donc un épiphénomène. Il y a beaucoup de recherches faites dans le contexte de comprendre qu'est-ce que c'est la cause de l'autisme, éventuellement pour développer des thérapies. Et ça s'est fait et chez les humains et d'une façon un peu plus mécaniste chez les primates. L'aspect biomédical, ce sont des études sur le cerveau, d'ailleurs pas que des primates, mais aussi d'autres modèles animaux, qui ont une retombée presque immédiate, au range de quelques années, et qui sont ciblées pour traiter ou pour mieux comprendre certaines maladies, en particulier des maladies neurologiques ou neurodégénératives. Des exemples classiques, c'est la maladie de Parkinson, pour laquelle les études sur le primate ont permis de développer une série de thérapies. Mais ce qui m'intéresse personnellement le plus sont les conséquences que ce genre de recherche a pour notre cerveau, donc les recherches fondamentales. La recherche fondamentale, normalement, n'a pas une application immédiate. C'est une compréhension des systèmes et que, dans un deuxième temps, aidera à développer des techniques, des technologies, à inventer des choses qui auront des applications directes pour augmenter la qualité de la vie des êtres humains. Par exemple, les études faites dans la deuxième moitié du XXe siècle pour ce qui concerne le système visuel des primates sont en train de permettre dans ces moments de commencer à développer des prototypes des rétines artificielles. La même chose concerne les développements de prothèses motrices, par exemple.
On peut utiliser les signaux du cortex moteur pour faire bouger une chaise roulante ou des bras robotiques et aider ce type de patient. D'ici une vingtaine d'années, il y aura des prothèses qui sont guidées par les signaux du cerveau.
C'est un peu la direction, je pense, d'optique dans laquelle il faut voir les rapports entre la recherche dans le sens fondamental et l'utilité pour la société humaine.
expérience, on passe du temps avec le macaque. Et là viennent d'autres questions qui sont plus d'ordre philosophique que de...
D'un point de vue individuel, je peux dire que le travailler avec des animaux, en particulier travailler avec des primates, c'est une expérience bien instructive. Pas toujours simple, parfois très forte, parce que aussi, ce sont des animaux qui ont un caractère plutôt fort.
Après, c'est une relation entre deux animaux, un qui essaie de comprendre l'autre et l'autre peut-être... On est face à un abîme quand on est en face d'un animal, parce que on n'a pas la même perception. Des fois, on pense que...
On se trouve en face avec un animal complexe qui reste cependant un animal, qui a sa volonté, a ses intérêts, a son désir d'un côté de plaire, parce que c'est un animal domestiqué, donc de faire bien sa tâche. De l'autre côté, il a aussi ses caprices, etc. C'est la nécessité, comme chercheur, de développer un rapport et d'instaurer une relation qui change d'individu à individu.
Après, le problème, c'est que nous, on transmet nos sentiments. On fait des transferts anthropomorphiques où on donne des sentiments humains aux animaux et en fait, on n'en sait rien parce qu'on n'a pas la même perception. C'est inhérent à l'homme de projeter son humanité sur les objets, sur les plantes, sur les animaux.
Après, bien évidemment, l'autre question est d'être confronté à se poser de façon directe la question sur l'utilité et l'importance de l'expérimentation sur les animaux.
On ne peut pas se dégager de notre humanité. C'est une frontière floue et en même temps c'est une vraie frontière. Parce que nous avec nos mots on ne peut pas expliquer cette différence qu'il y a.